Donc effectivement, je vais vous parler de la dyslexie et disons, je vais essayer de faire un bilan des connaissances scientifiques sur la dyslexie, un peu à tous les niveaux de description. Et en fait, tout ce que je vais vous dire est contenu dans l'expertise collective de l'INSERM sur la dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Bon, si vous regardez la partie dysorthographie et surtout dyscalculie, vous allez être un peu déçus. L'essentiel porte sur la dyslexie, ça reflète juste l'état des connaissances. Mais donc cette expertise collective de l'INSERM qui est parue en février 2007 qui contient l'essentiel des connaissances disponibles à ce jour. Et donc le texte intégral est disponible sur Internet, vous pouvez le consulter si vous voulez plus de précision. Je considère que c'est vraiment l'ouvrage de référence si on se pose une question sur la dyslexie. Il n'y a pas de source vraiment plus complète et plus à jour actuellement. Il est intéressant de remarquer que quand cette expertise collective est sortie, elle a été épinglée par certaines personnes. Donc là, je montre le café pédagogique qui montre bien que même si les connaissances ont avancé, les attitudes ont changé, finalement, il y a encore des gens qui pensent que la dyslexie est une invention destinée à médicaliser des problèmes sociaux ou pédagogiques. Et donc je vous montre pas ça vraiment pour reprendre cette polémique, simplement pour vous dire que si on veut avoir un avis sur cette question, la condition sine qua non, c'est de prendre connaissance des données scientifiques relatives à la dyslexie. Et donc ces données, elles sont dans l'expertise collective de l'INSERM, mais là, dans l'heure qui vient, je vous en fais un petit résumé. Donc, comme l'a expliqué Madame d'Horizon dans sa perspective historique, effectivement, de nombreuses personnes avant nous ont jugé utile de faire une distinction entre l'illettrisme ou les difficultés d'acquisition de la lecture et la dyslexie, qui est probablement un sous-ensemble de l'illettrisme ou une explication partielle des multiples causes de l'illettrisme. Pourquoi ? Ben, évidemment, l'apprentissage de la lecture, c'est une tâche complexe qui nécessite tout un ensemble de ressources cognitives et également de ressources dans l'environnement de l'enfant. Et donc, évidemment, on peut tout à fait imaginer, concevoir que des problèmes, des carences, des déficiences à tel ou tel niveau dans n'importe lequel de ces facteurs puissent engendrer des difficultés dans l'acquisition de la lecture. Donc, dans un sens, toutes les hypothèses sont correctes. Et tous ces facteurs peuvent induire des troubles d'acquisition de la lecture. Donc dans ce sens-là, tout le monde a raison. Mais tout ceci n'est pas la dyslexie. En fait, ce qui est remarquable, c'est que si on considère l'ensemble des enfants qui ont des troubles d'acquisition de la lecture et qu'on essaye en quelque sorte de cocher un petit peu toutes ces cases pour voir pour chaque individu ce qui pourrait expliquer son trouble d'acquisition de la lecture, on se rend compte que même après exclusion de tous ces facteurs, il y a encore un nombre significatif d'enfants qui ont du mal à apprendre la lecture et dont cette difficulté n'est pas à première vue explicable par l'une des causes que l'on vient de citer. La prévalence, je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que les chiffres sont toujours un petit peu arbitraires, on va dire. Donc on considère qu'environ 3 à 5% des enfants d'âge scolaire seraient dyslexiques. Évidemment, tout dépend des définitions qu'on prend et des seuils de sévérité qu'on applique. Hein. C'est pour ça que ces chiffres ne sont pas toujours à prendre au pied de la lettre. Mais donc, malgré tout, vous voyez déjà, je me situe en termes de prévalence, je me situe plutôt en deçà des chiffres qui sont quelquefois annoncés. Malgré tout, ça reste quand même un enfant par classe en moyenne, et donc aucun enseignant peut se permettre d'ignorer le problème que pose la dyslexie. Alors voilà un petit peu comment on va essayer de comprendre le problème dans la recherche. Et en fait, au départ, on n'a pas forcément d'hypothèse a priori sur l'origine du problème. Ce qu'on fait, c'est au départ une observation au niveau du comportement. On observe simplement que le niveau de lecture de l'enfant est très inférieur au niveau de lecture attendu. Attendu, eu égard disons, l'âge chronologique de l'enfant, à ses capacités intellectuelles, à ses capacités perceptives qui sont supposées normales, également à son environnement social, familial et pédagogique, qui eux aussi sont généralement normaux. Et donc tout ce contexte, on va dire, normal, induit des attentes sur le fait qu'un enfant de tel âge doit lire à peu près à tel niveau. Et donc on part de cette observation, de ce décalage entre le niveau de lecture observé et le niveau de lecture attendu, et on va chercher des causes, évidemment. ou en tout cas des facteurs qui contribuent à ce décalage. Et ces causes, on peut les chercher aussi bien parmi les facteurs environnementaux, et il y a des facteurs environnementaux qui vont influencer ce décalage, et également dans des facteurs qui sont plus intrinsèques à l'individu, et donc en premier lieu parmi les facteurs cognitifs. Donc la cognition, ce qu'on appelle la cognition, donc c'est l'ensemble des processus de traitement de l'information qui sont réalisés par le cerveau, qui nous permettent bien de percevoir, de penser, de communiquer, de parler, etc. Et donc, évidemment, le comportement, en quelque sorte, il est produit par la cognition. Si on lit, c'est parce qu'on a des processus cognitifs qui nous font lire. Et si on n'arrive pas à lire, c'est aussi parce qu'on a des processus cognitifs qui n'y arrivent pas. Donc, en quelque sorte, c'est évidemment au niveau cognitif qu'il va falloir rechercher un ensemble de facteurs qui pourraient expliquer le trouble au niveau comportemental. Après, ayant identifié des facteurs cognitifs, on va évidemment se poser la question de leur base cérébrale, parce que la cognition, c'est quelque chose qui est localisé dans le cerveau, qui est implémenté par le cerveau, et donc s'il y a un déficit cognitif, il a nécessairement une base cérébrale. Et donc on va chercher des bases cérébrales, et puis après on va se poser la question de savoir mais pourquoi certains enfants ont telle base cérébrale et d'autres pas, et on va remonter, vous allez le voir, à des différences génétiques. Donc on va faire un petit peu ce trajet ce matin. On va remonter doucement des symptômes comportementaux aux facteurs cognitifs et puis de proche en proche aux facteurs cérébraux puis génétiques. Donc pour commencer par les facteurs cognitifs, bon, vous êtes sans doute déjà au courant que l'hypothèse principale concernant un déficit cognitif dans la dyslexie est celle du déficit phonologique. L'idée étant extrêmement simple, pour apprendre à lire, il faut notamment apprendre des correspondances entre les graphèmes et les phonèmes, et même plus généralement entre des symboles visuels et des sons. On peut donc concevoir qu'un enfant qui aura un déficit phonologique, alors pris dans un sens relativement vague, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Donc les représentations phonologiques, ce sont les représentations mentales de la parole, hein, que nous avons tous dans notre tête quand on s'écoute parler les uns les autres et quand on produit de la parole. Et donc on peut imaginer que si ces représentations sont déficientes d'une certaine manière, peut-être que les unités de la parole sont moins bien représentées, sont moins bien accessibles, sont moins bien manipulables, eh bien on peut concevoir que l'apprentissage de ces correspondances graphèmes-phonèmes et de ces associations visuelles auditives se fasse moins bien et donc en quelque sorte perturbe une des premières étapes de l'apprentissage de la lecture. Ce facteur cognitif interagit avec un facteur qui est dans l'environnement, qui est le système orthographique qui définit les relations entre les graphèmes et les phonèmes, et entre les phonèmes et les graphèmes, et vous savez que ce système orthographique peut être plus ou moins régulier, plus ou moins transparent, et que ce facteur de régularité orthographique va interagir en fait avec les facteurs cognitifs pour augmenter ou diminuer la difficulté de la tâche d'apprentissage des correspondances graphèmes-phonèmes et de leur utilisation dans la lecture. Donc pour vous détailler un petit peu plus de comment se manifeste ce déficit phonologique et pourquoi finalement on y croit, c'est parce qu'il y a quand même des données solides à l'appui. Donc on peut tester les capacités phonologiques d'enfants de différentes manières. Donc ça se fait à l'oral évidemment. Il ne s'agit pas de tester la lecture de l'enfant. Si l'enfant il a des troubles de lecture, on le sait. Mais on veut pouvoir tester sa phonologie indépendamment de la lecture. Donc le premier type de tâches sont des tâches dites de conscience phonologique. Donc la conscience phonologique, c'est la capacité à réaliser que les mots, en fait, sont pas juste des mots, mais qu'ils peuvent se subdiviser en unités plus petites, que sont les syllabes et les phonèmes. Et aussi la capacité de prêter attention à ces phonèmes et de les maintenir en mémoire à court terme. Et donc cette conscience phonologique émerge, on va dire, relativement graduellement chez l'enfant. Souvent, on peut déjà en repérer, disons, des précurseurs vers l'âge de 4 ans. Ça peut se tester, par exemple, de la manière suivante. Vers 4 ans, on peut tester si l'enfant est sensible aux rimes, par exemple. Donc on lui dit à l'oral trois mots, route, goutte, barre, quel est l'intrus ? Et un enfant de 4 ans est souvent capable de dire que le troisième, il sonne pas comme les autres, et éventuellement il termine pas comme les autres. Il n'y a pas besoin du concept explicite de ce qu'est une rime, mais il entend que c'est différent. Si une fois qu'il est un petit peu plus âgé, il peut être capable de détecter un intrus au niveau des allitérations, donc du phonème initial. Là, il peut dire que le deuxième a un début différent des deux autres. pour des enfants un peu plus âgés, on peut faire des tâches de conscience phonologique plus complexes, comme des contrepèteries élémentaires, où on dit deux mots à l'oral et on demande d'échanger le premier son de chaque mot, de manière à produire des mots qui n'ont pas de sens, par exemple vitron, sato. Donc voilà des tâches qui sont utilisées de manière courante par les psychologues et par les orthophonistes pour évaluer les capacités de conscience phonologique des enfants. Et il y a un corpus de données considérables accumulées depuis 30 ans qui montre que les enfants dyslexiques ont de grosses faiblesses dans ces capacités de conscience phonologique. Un autre secteur impliquant dans la phonologie dans laquelle ils ont des faiblesses, c'est tout ce qui est la mémoire verbale à court terme. Donc entendre de la parole, la stocker en mémoire à court terme pendant un bref laps de temps, quelques secondes, et la restituer. Et donc ça peut se tester par des tâches d'empans de chiffres, donc retenir une série de chiffres comme un numéro de téléphone, ou des empans de mots, ou de pseudo-mots, etc. Ou répéter simplement des pseudo-mots. Là aussi, on trouve que les enfants dyslexiques ont de grosses difficultés, ils ont des empans plus faibles que les enfants témoins. Et enfin, un troisième secteur où les enfants dyslexiques sont en difficulté, ce sont dans des tâches de dénomination rapide, qui sont un petit peu moins classiques, qui sont des tâches où typiquement on présente une planche de 50 objets, où ça peut être aussi des chiffres ou des lettres ou des couleurs, et on demande à l'enfant de nommer rapidement, le plus rapidement possible, tous ces objets. Donc vous voyez, vert, lit, cœur, chien, vert, lit, vert, cœur, lit, etc. Et on chronomètre. Et on observe que les enfants dyslexiques sont beaucoup plus lents que les autres à ce type de tâches. Et donc, vous voyez, ces trois types de tâches sont relativement différentes. Elles ne couvrent pas l'ensemble de ce qu'un linguiste pourrait appeler la phonologie, mais elles ont tout en commun le fait de faire appel aux représentations phonologiques, d'y prêter attention de manière consciente, de les stocker en mémoire verbale à court terme et d'y accéder rapidement pour au moment de la production des mots. Et donc, les enfants dyslexiques ont des problèmes dans ces trois secteurs des capacités phonologiques. Alors évidemment, on pourrait se poser la question de « mais est-ce que finalement, ces faiblesses dans les compétences phonologiques pourraient pas être aussi un peu le résultat du mauvais apprentissage de la lecture ?» Puisque on sait que, évidemment, à partir du moment où on commence à apprendre la lecture, ça va notamment renforcer les capacités de conscience phonologique, puisque le fait d'apprendre les associations graphèmes-phonèmes et donc d'apprendre des supports visuels pour les phonèmes, ça va aider aussi ces capacités-là. Mais en fait, la réponse est non, puisque pour tester cette hypothèse, on peut simplement comparer les enfants dyslexiques à des enfants qui sont appariés en niveau de lecture, donc qui vont être des enfants plus jeunes, en fait. Et en fait, on trouve que les enfants dyslexiques ont des capacités phonologiques plus faibles même que des enfants qui ont le même niveau de lecture et qui sont quelquefois 2 ou 3 ou 4 ans plus jeunes. Donc ce déficit phonologique n'est pas réductible à un mauvais apprentissage de la lecture. Donc voilà la manière, disons, de le représenter graphiquement, donc avec ces trois composantes, hein, donc faible conscience phonologique, faible mémoire verbale à court terme, accès phonologique inefficace. Ces trois composantes des capacités phonologiques sont utiles dans l'apprentissage de la lecture et dans son automatisation. Évidemment, la faible conscience phonologique est celle qui est la plus directement reliée à cette étape cruciale qui est l'apprentissage des correspondances graphèmes-phonèmes. Alors évidemment, à partir du moment où on dérape dans cette première étape, évidemment, tout le reste s'ensuit, parce que vous savez qu'il ne s'agit pas d'en rester aux associations graphèmes-phonèmes et au déchiffrage lettre à lettre, mais on doit passer assez rapidement à la deuxième étape, qui est l'acquisition d'un stock lexical orthographique. Mais à partir du moment où on n'arrive pas à décoder les mots au départ, évidemment, on va moins lire de mots, et ce n'est qu'en lisant des mots qu'on va finir par se constituer ce lexique orthographique. Donc là, évidemment, dans cette deuxième étape aussi, l'enfant dyslexique prend du retard, et du coup, alors que l'enfant normal, eh bien, il a acquis les bases de la lecture, et puis il commence à lire, et il lit de plus en plus, et en lisant de plus en plus, il accumule un lexique orthographique toujours plus grand qui l'aide à lire de plus en plus efficacement, et eh bien l'enfant dyslexique, il reste coincé derrière, et l'écart entre l'écart de performance en lecture entre l'enfant dyslexique et l'enfant témoin de même âge a tendance à s'accroître avec le temps. Alors un autre point crucial, c'est évidemment qu'il y a une corrélation assez forte entre les capacités phonologiques de l'enfant et ses capacités de lecture. Corrélation, bon, qui est illustrée ici, c'est un exemple d'une étude qui a montré cette corrélation. Toutes les études trouvent cette corrélation. Cette corrélation est très forte, vous voyez, 0.86. Elle est vraie à la fois au sein d'un groupe d'enfants dyslexiques qu'au sein d'un groupe d'enfants non dyslexiques et qu'à travers les deux groupes. Hein, donc les capacités phonologiques, de manière générale, sont un élément important, un prérequis cognitif important pour l'apprentissage de la lecture. C'est vrai pour tous les enfants, et c'est vrai a fortiori pour les enfants qui ont un déficit spécifique de ces compétences phonologiques. Alors, pour enfoncer encore un tout petit peu le clou, et pour vraiment montrer que ce déficit phonologique, c'est pas juste une conséquence du mauvais apprentissage de la lecture, évidemment, on a envie d'aller regarder avant l'apprentissage de la lecture, et donc de faire des études longitudinales qui démarrent avant 6 ans. Alors je vous en montre une qui est particulièrement intéressante, parce qu'elle a démarré carrément à la naissance. Donc ce sont des collègues finlandais qui ont fait ça, et qui a pu démarrer à la naissance en se basant sur le fait qu'il y a un risque familial pour la dyslexie, c'est-à-dire que quand on a un parent dyslexique, la probabilité que chaque enfant soit dyslexique est d'environ 50%. Pourquoi ? Pour des raisons génétiques qu'on va aborder un petit peu plus tard, mais pour l'instant, c'est même pas le problème. Simplement, cette seule observation, on va dire, épidémiologique, permet de recruter d'une part des nouveau-nés témoins et d'autre part des nouveau-nés qui sont, on va dire, à risque de développer une dyslexie parce qu'ils ont un parent dyslexique. Donc au sein de ce groupe à risque, il y a des enfants qui vont devenir tout à fait normaux et d'autres enfants qui vont devenir dyslexiques. Et évidemment, on ne le sait pas à l'avance. On sait juste qu'ils sont porteurs d'un risque familial. Et le but de toute cette étude, c'était d'effectuer tout un ensemble de mesures tout au long de la vie de ces enfants, de leur développement, donc depuis la naissance jusqu'à l'âge d'environ 10 ans après le démarrage de l'apprentissage de la lecture. Et donc, non seulement évidemment de voir si on pouvait avoir des prédicteurs précoces de qui allait devenir dyslexique ou pas, mais plus généralement d'essayer de comprendre quels étaient les facteurs qui ont une influence sur l'apprentissage de la lecture de manière générale, et en ne se centrant pas exclusivement sur des facteurs biologiques, mais aussi en mesurant tout un tas de facteurs environnementaux, familiaux, qui peuvent avoir un rôle. Alors je vous montre, ils ont un corpus de données considérable, je vous en montre un qui est particulièrement rigolo. Ils ont fait des études de perception de la parole chez les bébés lorsqu'ils avaient 6 mois. Ils ont fait des études à la fois comportementales, basées sur des mesures d'orientation du regard, et également des études de type potentiel évoqué, donc c'est une sorte d'électroencéphalogramme qui permet de mesurer des ondes électriques engendrées par les neurones lorsqu'ils détectent la différence entre deux syllabes. Donc par exemple, on expose l'enfant de manière répétée à « ba, 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 ba », et puis de temps en temps, il y a un « da » qui sort. Et si l'enfant entend, perçoit la différence entre les deux syllabes, alors il y a une onde cérébrale qui reflète cette discrimination. Et donc ce que ces collègues finlandais ont trouvé, c'est que déjà à l'âge de 6 mois, ces ondes cérébrales sont différentes entre le groupe de bébés à risque et le groupe témoin. Ce qui pourrait refléter déjà, en quelque sorte, une perception, une catégorisation différente des phonèmes qui serait en quelque sorte un précurseur des troubles phonologiques qu'on va observer plus tard. Alors évidemment, les observations qui ont été faites tout au long de la vie, disons, ne font que cumuler sur cette observation initiale. Donc évidemment, ils ont tout un ensemble de mesures, beaucoup de mesures qui ont trait au langage oral, mais aussi des mesures plus de type intellectuel général. Et donc, après, vous voyez, bon, il y a toutes ces mesures qui ont été prises à 14 mois, 2 ans et demi, 3 ans et demi, 4 ans et demi, 5 ans et demi. Et après, on peut faire des régressions et se demander, bon, mais lesquelles prédisent les capacités de lecture des années plus tard. Et donc, sans surprise, les variables qui ont le plus fort pouvoir explicatif sont des variables de langage oral. Il n'y a pas que des variables de langage oral. Vous voyez, il y a des capacités non-verbales telles que l'attention visuelle et les capacités intellectuelles qui sont mesurées dans le QI de performance. Mais pour le reste, c'est avant tout du vocabulaire réceptif, de la mémoire verbale à court terme, de la conscience phonologique et la connaissance des lettres et encore des connaissances phonologiques. Donc ce sont vraiment ces mesures de langage oral, essentiellement vocabulaire et capacité phonologique, qui sont les meilleurs prédicteurs des capacités de lecture qui pourront être mesurées des années et des années plus tard. Et ça, c'est vrai en fait, que les enfants soient dans le groupe à risque ou dans le groupe témoin, c'est vrai pour tous les enfants, ça a été fait aussi pour des enfants qui n'étaient pas à risque. Donc pour résumer un petit peu les données qui viennent à l'appui de cette hypothèse du déficit phonologique, la plupart des enfants dyslexiques présentent un déficit phonologique qui touche à la fois la conscience phonologique, la mémoire verbale à court terme et l'accès au lexique phonologique. Et non seulement leurs capacités phonologiques sont en deçà de celles des enfants de même âge, mais sont aussi en deçà de celles des enfants de même niveau de lecture, et donc plus jeunes.
Tu peux expliquer le lexique phonologique ?
Alors, lexique phonologique, donc c'est le lexique mental, notre dictionnaire. Il contient des formes sémantiques des mots, leur sens, et des formes phonologiques des mots, c'est leur forme orale, et aussi des formes orthographiques des mots, leur forme écrite, une fois qu'on les a acquises. Et aussi bon, des propriétés morphosyntaxiques des mots. Donc le lexique phonologique, c'est la partie du lexique qui contient le son des mots. Et donc qui est particulièrement testé dans ces épreuves de dénomination rapide. Et donc des précurseurs du déficit phonologique sont mesurables chez les enfants qui vont devenir dyslexiques, et ce bien avant l'apprentissage de la lecture. Et il y a un fort pouvoir prédictif de ces capacités phonologiques sur les capacités ultérieures de lecture. Donc vous voyez un corpus de données extrêmement fort à l'appui de cette hypothèse du déficit phonologique. Pour autant, vous ne m'avez pas entendu dire que 100% des enfants dyslexiques ont nécessairement un déficit phonologique, et on ne peut pas ne pas mentionner une hypothèse alternative qui est celle de déficit visuel. Et elle est aussi bien naturelle, cette hypothèse, puisque la lecture est une tâche visuelle, et donc il s'agit bien de voir les mots, de planifier des saccades d'un mot à l'autre, etc., et d'identifier les lettres et les séquences de lettres qui forment les mots. Donc on peut tout à fait imaginer... Alors évidemment, on ne parle pas de troubles ophtalmologiques. Ceux-là sont d'emblée exclus de la définition de la dyslexie. Donc si les enfants sont hypermétropes, ils ont des lunettes et ils sont corrigés. Sinon, il ne s'agit pas de les appeler dyslexiques. Mais bien au-delà, on peut imaginer que dans le cortex visuel, il puisse y avoir des légers dysfonctionnements qui pourraient avoir un impact sur les aspects visuels de la lecture. Et donc, ce que vous dit cette diapo, et je n'ai qu'une diapo sur ce type d'hypothèse, c'est qu'il y a pas mal d'hypothèses et de théories sur les formes de dyslexie visuelle, que pour l'instant, aucune n'a gagné, aucune n'a totalement prouvé sa validité, ou en tout cas, aucune n'a délimité de manière non ambiguë quel sous-ensemble des enfants dyslexiques elle prétendait expliquer, et si cette explication se révélait vraiment efficace et prédictive. En fait, il est probable qu'il y a plusieurs types de dyslexie visuelle, et voilà, je vous en dis pas plus parce qu'on n'en sait pas plus. Chacun a son candidat. Il y a certainement beaucoup plus de recherches à faire là-dessus. Il faut juste garder à l'esprit que tous les enfants dyslexiques n'ont pas nécessairement un déficit phonologique. Il peut y en avoir certains qui ont des troubles plutôt de nature visuelle, qui vont évidemment nécessiter un mode de rééducation différent, et que voilà, on ne sait pas trop quoi faire avec ces enfants, mais ils existent aussi. Et donc maintenant, je reviens, après cet aparté, je reviens uniquement aux formes phonologiques de dyslexie, qui sont à peu près les seules sur lesquelles on a encore des données.
Juste commenter quand même les items.
Commenter, oui. Alors bon, disons, une hypothèse qui traîne depuis longtemps, c'est celle d'un trouble de contrôle binoculaire, donc qui affecterait non seulement la convergence des deux yeux sur le bon point de la page, et donc le fait de la capacité à voir les lettres de manière nette, mais aussi la capacité à planifier les saccades le long d'une ligne et le long d'une page de texte. Et à partir de là, il y a des gens qui ont proposé des hypothèses neurologiques pour expliquer ce trouble de contrôle binoculaire, et c'est le rôle de cette théorie du dysfonctionnement magnocellulaire, en fait. Je vais pas rentrer là-dedans, mais c'est une théorie neurologique des troubles de contrôle binoculaire. Il y a d'autres gens qui ont des hypothèses plutôt de type attentionnel, c'est-à-dire donc, par exemple, l'hypothèse de Sylviane Valdois, avec laquelle vous êtes peut-être familier, c'est que on a tous une fenêtre visio-attentionnelle qui a une certaine taille et qui fait que quand on regarde les mots, eh ben, on peut prêter attention à un certain nombre de lettres, hein, relativement limité. Et donc, l'idée, c'est que certains enfants pourraient souffrir d'une fenêtre visio-attentionnelle plus étroite, et ce qui, évidemment, poserait un certain nombre de problèmes pour la lecture. Et puis, bon, il y a un certain nombre de variantes. Les autres sont des variantes à peu près de cette hypothèse. Donc, voilà un petit peu les idées qui sont à l'étude, mais bon, voilà, on n'en sait pas plus pour l'instant. Donc, revenons à notre dyslexie phonologique qui concerne quand même une large majorité d'enfants dyslexiques. Et donc, maintenant, on se dit, bon, ben voilà, ces enfants, ils ont un déficit phonologique. Ils ont ce déficit phonologique visiblement avant même l'apprentissage de la lecture, peut-être même sous une certaine forme dès la naissance. Mais alors, d'où ça vient ? Évidemment, ça vient du cerveau. Ça ne peut pas venir d'ailleurs, ça ne vient pas des pieds. Donc là, on va faire appel à d'autres méthodes pour essayer de localiser la source. Donc ce petit schéma vous montre un hémisphère gauche du cerveau. Pourquoi gauche ? Parce que vous savez que le langage est localisé de manière prédominante dans l'hémisphère gauche chez la plupart des gens. Et au sein de cet hémisphère gauche, bon, il y a un certain nombre de zones qui sont plus spécialisées dans le langage que les autres, notamment des zones qui se situent par ici, aux alentours de cette scissure de Sylvius, et donc on va les appeler les zones périsylviennes gauche, qui sont donc par ici. Et là, en grisé, vous voyez trois aires qui, en quelque sorte, constituent le système cérébral de la lecture, d'accord ? Qu'on peut mettre en évidence, d'une part, dans des études de lésions. C'est là que les patients alexiques ont des lésions cérébrales qui produisent leur incapacité à lire. C'est mis aussi en évidence dans les études d'imagerie cérébrale fonctionnelle. Donc c'est là que ce sont les aires cérébrales qui s'activent quand un adulte qui sait lire lit dans l'IRM. Et alors après, évidemment, on peut rentrer dans des comparaisons entre les témoins et les dyslexiques. Et donc on observe, sans grande surprise, on va dire, que les personnes dyslexiques qui lisent dans l'IRM n'activent pas ces régions cérébrales de la même manière. Donc c'est le cerveau droit ici. Et en règle générale, ont tendance à moins activer ces aires cérébrales que les personnes témoins. C'est vrai au moins pour deux de ces aires cérébrales, c'est la jonction temporoparietale ici et l'aire temporale, occipitotemporale là. Pour ce qui est de cette aire frontale, les études divergent si elle est plus activée ou moins activée chez les personnes dyslexiques. En tout cas, elle n'est pas activée pareil, ça c'est certain. Alors évidemment, on ne peut pas totalement affirmer que c'est là la cause du déficit cognitif. C'est un corrélat neurofonctionnel, on va dire. C'est le pendant biologique de ce qu'on observe au niveau cognitif et comportemental. Si on veut remonter aux causes, il faut aller un petit peu plus loin. Et donc l'étape suivante, c'est de regarder l'anatomie du cerveau. Alors, au premier ordre, les cerveaux des personnes dyslexiques sont tout à fait normaux. Hein. Vous montrez l'IRM du cerveau d'une personne dyslexique à un neurologue, et il va regarder ce qu'il est habitué à regarder, c'est-à-dire des tumeurs, des lésions cérébrales, des accidents vasculaires, etc. Et il ne va rien voir. Donc pas de lésions cérébrales macroscopiques visibles à l'œil nu à l'IRM. Néanmoins, si on fait des études un petit peu plus quantitatives, un petit peu plus poussées, qui vont regarder des paramètres beaucoup plus subtils, par exemple l'épaisseur de la matière grise dans différentes zones cérébrales, alors là, on va trouver des différences, en moyenne, entre des groupes de personnes témoins et des groupes de personnes dyslexiques. Et ces différences vont être localisées notamment dans deux de ces aires cérébrales de la lecture, l'aire frontale et l'aire temporoparietale gauche. Et donc dans ces deux aires, on trouve, à travers un assez grand nombre d'études, une plus faible épaisseur de matière grise. Et puis, on peut regarder aussi la connectivité des fibres de matière blanche qui relient tous ces neurones de matière grise, donc qu'on visualise par de l'imagerie de diffusion qui est représentée ici. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a aussi une plus faible connectivité de ces fibres de matière blanche sous la jonction temporopariétale, suggérant que non seulement cette aire temporopariétale contient peut-être moins de neurones, mais également qu'elle est moins bien connectée, d'une part, entre ces zones entre elles, mais d'autre part, avec d'autres aires qui sont utiles pour la lecture. Donc vous voyez que d'un point de vue neuroanatomique aussi, il y a des différences entre les cerveaux des personnes dyslexiques et les témoins. Malgré tout, on ne peut pas encore nécessairement affirmer qu'on a abouti à une cause ultime. Pourquoi ? Parce que même ces propriétés neuroanatomiques peuvent changer sous l'influence de l'expérience. Par exemple, vous faites un stage de jonglage pendant plusieurs semaines, l'épaisseur de votre cortex moteur va augmenter. Et ça, on va pouvoir le mesurer à l'IRM. Dans un sens, ça tombe sous le sens, parce que pourquoi on peut apprendre ? Parce que notre cerveau peut se modifier. Alors évidemment, c'est extraordinaire que la technique nous permette d'observer ces modifications, mais ça ne peut surprendre personne qui a réfléchi un petit peu à la question que le cerveau puisse se modifier. C'est la condition sine qua non de pouvoir s'adapter à l'environnement. Donc là aussi, on pourrait dire finalement, cette différence de matière grise, ça pourrait être la conséquence du mauvais apprentissage de la lecture, aussi bien que sa cause. Alors pour remonter à des causes ultimes, il va falloir remonter encore plus loin. Et là, ça se complique parce que si on veut vraiment observer les choses au niveau cellulaire, il faut disséquer les cerveaux. Et donc, ça ne peut se faire que post-mortem. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait ça. En fait, il y en a qu'un. C'est un neurologue américain et ses collègues à Harvard, Gala Burda. Et donc ils ont disséqué un certain nombre de cerveaux de personnes dyslexiques et ils ont trouvé un certain nombre de petites anomalies, donc qu'il a appelé des ectopies et des microgyries à la surface du cortex. Et donc qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et donc il se trouve que ces petites anomalies reflètent de manière tout à fait non ambiguë une étape particulière de du développement du cerveau qui s'appelle la migration neuronale. Alors qu'est-ce que c'est? Je rentre un petit peu dans les détails parce que ce sont des détails quand même intéressants, même si évidemment on peut pas, il s'agit pas de tout comprendre et de tout détailler. Mais donc, en gros, la migration neuronale, c'est une étape fondamentale du développement du cerveau qui, chez l'humain, se passe au stade fœtal, en fait, entre 12 et 24 semaines de gestation, et qui est une étape à laquelle les cellules progénitrices des neurones se divisent pour créer de plus en plus de neurones. Elles se divisent ici, au centre du cerveau, dans cette zone dite ventriculaire. Et une fois que ces nouveaux neurones sont nés, donc là, on zoome sur cette zone ventriculaire. Une fois que ces neurones sont nés, ils doivent pas rester à cet emplacement parce que c'est pas leur emplacement définitif. Ils doivent accéder à leur emplacement définitif qui se situe là, à la périphérie du cerveau, c'est-à-dire le cortex. Et donc, en fait, ils le font en grimpant. Donc, vous voyez, le neurone est ici en violet et il grimpe le long d'une espèce de branche grise qui est une cellule gliale. Et donc, il y a un processus de migration des neurones de l'endroit où ils sont nés vers l'endroit où ils vont habiter de manière permanente dans une des six couches du cortex. Et donc, c'est ça la migration neuronale. Et il peut y avoir des perturbations de la migration neuronale. Certaines sont bien connues et sont tout à fait dramatiques et produisent des retards mentaux majeurs. Et certaines sont beaucoup plus subtiles et c'est le cas de ces ectopies. Ectopies qu'on voit par exemple ici qui se manifestent par un tout petit agrégat de neurones dans une couche tout à fait superficielle du cortex où normalement il y a moins de neurones. Vous voyez, cette couche, elle est plutôt blanche et les points bleu foncé sont des neurones. Elle contient globalement peu de neurones, beaucoup moins que la couche numéro 2 qui se situe en dessous, mais là elle en contient un nombre anormalement élevé. Et en fait, ce type d'ectopie se produit par exemple lorsqu'il y a une brèche dans la membrane gliale qui ferme la couche numéro 1, et dans ce cas, s'il y a une brèche, eh bien les neurones s'engouffrent là-dedans et vont former cette petite excroissance. Alors ces choses-là sont toutes petites, elles font un dixième de millimètre à peu près, elles sont presque visibles à l'œil nu à la surface du cortex, mais c'est vraiment minuscule. Ce qui est important, c'est pas forcément tous ces neurones qui sont là dans la couche superficielle, c'est probablement plutôt la désorganisation qui est produite sur le chemin dans les couches sous-jacentes du cortex et le fait que ces neurones sont pas à la place où ils devraient être. Malgré tout, des ectopies, on en a tous deux ou trois, et ça n'a pas une énorme conséquence fonctionnelle, vous voyez. Ça pourrait avoir des conséquences fonctionnelles importantes si on a un très grand nombre d'ectopies ou une forte densité, et s'ils sont localisés dans certaines zones cérébrales qui remplissent une fonction importante. Et alors c'est là que ça devient intéressant, c'est que c'est justement l'observation qu'ont fait Galaburda et collaborateurs, c'est que ils ont trouvé que chez ces cerveaux de personnes dyslexiques, non seulement il y avait un nombre beaucoup plus important que la normale d'ectopies, qui sont figurées par des points noirs ici sur les deux faces du cerveau, mais qu'en plus, elles n'étaient pas localisées n'importe comment, et en particulier, elles sont pas localisées de manière uniforme sur l'ensemble du cortex. Non, elles sont localisées, premièrement, de manière prédominante dans l'hémisphère gauche, et au sein de l'hémisphère gauche, de manière prédominante dans cette zone périsylvienne qui contient notamment l'aire frontale inférieure gauche et l'aire temporo-pariétale gauche, qui sont, vous l'avez compris, des aires qui sont utiles pour la lecture, pour l'apprentissage de la lecture, et dont on a déjà vu qu'elles sont hypoactivées fonctionnellement chez les dyslexiques et qu'elles ont un petit peu moins de matière grise chez les dyslexiques également. Donc là, à nouveau, encore dans ces mêmes aires cérébrales et de manière totalement indépendante, on voit des anomalies qui là sont des anomalies, on va dire, plus de type de l'architecture cellulaire de certains aspects du cerveau. Et donc là, évidemment, vu le type de malformation et la chronologie de ces malformations, il est plus possible de dire que ça pourrait être une éventuelle conséquence du mauvais apprentissage de la lecture. Non, c'est là, dès le milieu de la gestation, et ça va pas bouger. C'est pas le genre de choses qu'on peut réparer facilement. Alors évidemment, qu'est-ce que ça fait exactement ces ectopies et ces microgyries? C'est pas le genre de choses qu'on peut manipuler directement dans le cerveau des humains, hein, pour des raisons éthique évidente, mais ça se fait chez l'animal, et donc il y a des modèles animaux, alors on les a appelés longtemps les rats dyslexiques, etc. Ce sont pas des modèles animaux de la dyslexie, en fait. Ce sont des modèles animaux des dysfonctionnements cérébraux qui ont été observés. Des rats de bibliothèque, voilà. Donc, ces rats, évidemment, ils ont du mal à lire, mais ils ont aussi un ensemble de troubles cognitifs qui ne sont pas inintéressants. Donc, il y a un lien établi entre non seulement la présence d'un grand nombre d'ectopies dans le cerveau du rongeur, mais également la localisation de ces ectopies et la nature des déficits cognitifs qu'ils ont. Et donc, ils peuvent notamment présenter des troubles de mémoire de travail, des troubles d'apprentissage, des troubles d'orientation spatiale, des déficits auditifs. Donc, on ne va pas dire que ce sont des vrais modèles de la dyslexie. Malgré tout, pour ceux qui connaissent un peu les personnes dyslexiques, il y a là un profil cognitif qui n'est pas totalement sans rappeler ce qu'on peut observer au moins chez certaines personnes dyslexiques.
Ce n'est pas des troubles provoqués, là, chez le... C'est...
Alors, il y a deux méthodes pour avoir des rats ou des souris qui ont des ectopies. Il y a la méthode génétique, et donc on a des lignées de souris qui sont... Qui ont un certain patrimoine génétique qui font qu'elles ont des ectopies plus souvent que la normale. Et chez le rat, en fait, ces ectopies sont engendrées de manière chirurgicale pendant la gestation. Les deux produisent des résultats à peu près similaires. Ok, alors, malgré tout, cette hypothèse du trouble de la migration neuronale, comme disons l'explication définitive de la dyslexie, a pas toujours été bien acceptée. En fait, ces dissections ont été réalisées au début des années 80, mais elles n'ont pas été globalement, les résultats n'ont pas été globalement acceptés. Pourquoi ? Parce que Galaburda et collaborateurs n'avaient disséqué qu'un petit nombre de cerveaux. C'était déjà assez difficile de récupérer des cerveaux de personnes décédées avec marqué dyslexique dans le dossier médical, vous imaginez, à la fin des années 70. Mais alors, en plus, faire tout ce travail de section en coupe micrométrique et d'analyse au microscope, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Donc, ils l'ont fait pour 8 cerveaux qu'ils ont récupérés, 8 cerveaux de personnes dyslexiques. Ils ont comparé avec 10 cerveaux témoins. Et puis après, ils se sont dit, après que les autres répliquent ce genre d'études. Sauf que les autres n'ont jamais répliqué. C'est pas que les gens ont essayé de répliquer et qu'ils ont échoué, c'est que personne n'a essayé parce que c'était vraiment pas un travail suffisamment porteur ou intéressant. Donc voilà, donc ça fait 20 ans qu'on connaît ces données et il n'y a jamais eu de confirmation indépendante. Donc évidemment, elles sont nécessairement à prendre avec des pincettes. Et on ne peut pas avoir non plus de confirmation indépendante de la part de l'imagerie cérébrale parce que ces petites malformations sont trop petites pour être visibles à l'IRM. La résolution de l'IRM est trop faible. Elle est limitée à peu près au millimètre actuellement. Par contre, peut-être que ce qu'on voit en IRM, cette plus faible densité de matière grise ou cette plus faible connectivité de matière blanche, peut-être que c'est un reflet à un niveau plus macroscopique de troubles de la migration neuronale. Mais ça, on n'en a pas la preuve. Donc voilà, si vous voulez, ça fait un petit peu 20 ans que cette hypothèse, elle est dans le paysage scientifique de la dyslexie, mais qu'elle est aussi un petit peu enveilleuse parce qu'il n'y a pas eu de confirmation indépendante jusqu'à il y a à peu près 3 ans. Où les données génétiques sont arrivées. Et donc maintenant, on va effectivement se poser la question de d'où viennent ces dysfonctionnements cérébraux. Et donc on en arrive à la partie génétique, qui est encore plus technique que la partie cérébrale. Et vous allez peut-être trouver que je passe un peu trop de temps dessus, mais je vais passer volontairement un petit peu de temps dessus parce que je pense que la question des facteurs génétiques qui influencent globalement le cerveau et la cognition humaine, ça fait partie des choses qui sont les moins bien comprises dans le public et qui font l'objet des interprétations les plus erronées. Donc ça vaut la peine d'en parler un petit peu. Et il se trouve que justement, dans le cas de la dyslexie, il y a des données pertinentes, contrairement à plein d'autres troubles. Donc pourquoi est-ce qu'on fait l'hypothèse qu'il pourrait y avoir des facteurs génétiques dans la dyslexie ? Il y a tout un faisceau de données convergentes. Les données les plus anciennes, en fait, sont des observations du caractère familial de la dyslexie. Alors là, vous voyez une famille tout à fait exceptionnelle, qui est une famille finlandaise, exceptionnelle par sa taille, qui permet de voir un certain nombre de choses qui est plus difficile à voir dans des familles plus petites. Donc, si vous voulez, là, le code, c'est les générations sont des lignes différentes. Avec là, vous avez les arrière-grands-parents, puis les grands-parents, puis les parents, puis les enfants de la dernière génération. Les carrés sont des hommes, les ronds sont des femmes, et ceux qui sont en noir ou en grisé sont dyslexiques. Et donc, vous voyez que dans cette famille, à peu près une personne sur deux est dyslexique. Et que non seulement une personne sur deux est dyslexique, mais qu'elles ne sont pas réparties totalement au hasard. On peut, pour chaque enfant de la dernière génération qui est dyslexique, on peut repérer une voie de transmission depuis l'arrière-grand-père. D'accord ? Et quand l'arrière-grand-père, quand le risque de dyslexie n'a pas été transmis aux enfants, les petits-enfants n'en ont pas eu non plus. Donc, Et si on formalise ça d'une manière un petit peu plus quantitative, on va dire qu'il y a un risque familial de dyslexie et qu'il est de 50% au premier degré. C'est-à-dire si vous avez un apparenté au premier degré, parent, enfant, frère ou sœur, qui est dyslexique, votre probabilité à vous d'être dyslexique est également de 50%. Donc ceci, un généticien voit ça et il dit tout de suite « Ah ça, ça suggère une transmission autosomique dominante ». Ça n'en est pas la preuve pour autant. Donc ça veut dire que ça suggère la transmission d'un allèle dominant, d'un gène qui est porté sur un chromosome non sexuel. Ça ne le prouve pas, évidemment. Hein, et en particulier dans le cas de propriétés cognitives qui sont aussi le résultat d'un apprentissage, on peut tout à fait imaginer l'hypothèse alternative qui est que ces membres de la famille, ils partagent non seulement des gènes, mais ils partagent un certain environnement. Et donc on peut tout à fait concevoir que le fait d'avoir un parent dyslexique qui ne sait pas lire, le fait qu'il n'y a pas de livre à la maison, etc., que tout ça constitue un environnement défavorable pour l'apprentissage de la dyslexie. Donc si vous voulez, là, il y a quelque chose de très suggestif qui motive les généticiens à travailler, mais il n'y a pas une preuve d'une transmission génétique. Alors pour aller un petit peu plus loin, il y a les fameuses études de jumeaux. Donc avec lesquels vous êtes peut-être familier, vous savez qu'il y a deux types de jumeaux, les vrais jumeaux dits monozygotes, les faux jumeaux dits dizygotes. La différence, c'est que les vrais jumeaux sont des clones, ils ont 100% de leur génome en commun, alors que les jumeaux dizygotes ont seulement 50% de leurs allèles en commun, c'est-à-dire des variations des gènes en commun. Par ailleurs, ils grandissent, qu'ils soient monozygotes ou dizygotes, les paires de jumeaux grandissent dans un environnement familial qui ne diffère pas de manière substantielle, qu'ils soient monozygotes ou dizygotes. Et donc, on peut analyser la concordance des troubles entre les différentes paires de jumeaux. Donc, par exemple, si on a un jumeau qui est dyslexique et qu'il a un jumeau monozygote qui partage 100% de ses gènes, eh bien, ce jumeau monozygote a à peu près 70% de chances d'être lui-même dyslexique. C'est ce que représente cette barre noire. Alors que si son jumeau est dizygote, il ne partage que 50% de ses variations génétiques, eh bien, la concordance tombe à peu près 45%. Dans les deux cas, c'est très élevé. Souvenez-vous que la prévalence de la dyslexie, c'est pas plus de 5%. Donc rien que d'avoir un frère ou une sœur dyslexique, ça fait monter cette prévalence à 45%, et déjà, ça suggère qu'il y a un risque familial, pas nécessairement génétique, mais familial. Et cette différence de concordance entre les jumeaux monozygotes et dizygotes, qui diffère essentiellement par cette différence de similarité génétique, elle va être attribuée majoritairement à des facteurs génétiques. Donc c'est cette différence de concordance qui est primordiale et qui permet de calculer l'héritabilité. L'héritabilité qui est la proportion de la variance observée qui est attribuable à de la variance dans les facteurs génétiques et qui, globalement pour les troubles du langage, qu'ils soient oral ou qu'ils soient écrits, se chiffre aux alentours de 50 ou 60%. Ce qui veut dire que 50 ou 60% des variations dans les capacités de langage, dans les capacités de lecture, que ces capacités soient normales ou pathologiques, 50 ou 60% de la variance sont attribuables à de la variance dans les facteurs génétiques, le complément étant évidemment attribuable à de la variance dans les facteurs environnementaux. Donc c'est pas du tout une affirmation qu'il n'y aurait que des facteurs génétiques, non, c'est en gros partagé. Alors après, c'est bien gentil de dire il y a des facteurs génétiques, mais c'est ce que les gens ont dit pendant 30 ans, et à la longue, sans jamais arriver à montrer les gènes, ça devient un petit peu fatigant et les gens n'y croient plus. Mais il fallait attendre des progrès dans le domaine de la biologie pour arriver à enfin trouver des gènes, et donc c'est la phase à laquelle on est arrivé maintenant dans la dyslexie et dans la plupart des troubles neuropsychiatriques, on va dire, et troubles du développement de l'enfant. Et donc maintenant, disons, grâce au séquençage du génome humain, on peut vraiment aller chercher dans le génome quelles sont les variations qui semblent associées avec la dyslexie. Et donc là, vous voyez 6 régions chromosomiques. Donc ces grandes barres sont des schémas de chromosomes, du chromosome 1, 2, 3, 6, 15 et 18, sur lesquelles on a repéré des régions qui semblent plus spécifiquement liées à la dyslexie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les analyses familiales, donc là où la dyslexie est transmise de génération en génération, où on a prélevé l'ADN des parents et des enfants, eh bien ces portions de chromosomes sont plus souvent transmises de parents dyslexiques à enfants dyslexiques qu'on ne s'y attendrait au hasard. Et donc, à ce jour, il y a à peu près 9 régions chromosomiques qui ont été significativement liées à la dyslexie. Les 6 qui sont représentées ici ont été répliquées un certain nombre de fois dans plusieurs études indépendantes. C'est ce que reflètent ces différentes barres. D'accord ? Alors malgré tout, on n'a pas encore les gènes là, parce que ces régions chromosomiques sont très grandes en fait à l'échelle du génome. Il peut y avoir des centaines de gènes à l'intérieur. Et après, c'est encore un autre travail d'aller chercher quelle variation dans quel gène pourrait être à la source de la variation. Mais il se trouve que dans la dyslexie, les recherches ont été plutôt fructueuses, puisque à ce jour, les généticiens ont trouvé 4 gènes dans 3 de ces régions qui sont fiablement associés à la dyslexie. Alors je vais vous expliquer ce qu'on sait sur l'un de ces gènes, qui est le premier à avoir été découvert, qui est le gène D5C1, et vous allez voir que les autres se comportent à peu près pareil. Donc, je fais l'impasse un petit peu sur les méthodes par lesquelles ce gène a été découvert. Des observations qui sont intéressantes, c'est que, au cas où vous ne le sauriez pas, la plupart des gènes que nous avons, nous autres humains, sont les mêmes gènes que d'autres mammifères ont. Et donc ce gène D5C1 ne fait pas exception, il est partagé avec d'autres espèces animales, au moins jusqu'à la souris. Malgré tout, il n'est pas sous une forme identique chez toutes les espèces animales. Au cours de l'évolution, la séquence de base peut diverger légèrement, et donc on peut quantifier la similarité entre ce gène, la forme qu'il a chez l'humain et la forme qu'il a chez d'autres espèces. Et donc on voit que cette similarité est d'environ 99% avec la forme qu'il a chez le singe et de 78% avec la forme qu'il a chez la souris. Donc, peut-être quelque chose d'étonnant pour vous, mais qui en fait n'a rien d'étonnant pour les biologistes, ce gène-là n'est pas spécifique à l'être humain du tout. Il joue certainement des rôles importants dans le développement d'autres espèces animales. Deuxième surprise, peut-être, c'est qu'il n'est pas spécifique au cerveau non plus. Et ça, c'est pas non plus une surprise pour un biologiste. Tous les gènes participent à plusieurs fonctions, soit de manière concurrente, soit à différents stades du développement. Juste pour être clair sur les termes, donc un gène synthétise une protéine, et c'est ça qu'on appelle l'expression du gène, c'est les endroits et les moments où cette protéine est synthétisée. Donc le gène D5C1, il est présent dans toutes les cellules de l'organisme, mais il ne va synthétiser la protéine qui porte le même nom, D5C1, que dans le cerveau, les poumons, les reins, les testicules, et probablement que à certains stades du développement ou de la vie. Donc c'est pas un gène spécifique à l'humain, c'est pas un gène spécifique au cerveau, donc ça va pas être un gène non plus spécifique à la lecture. Mais malgré tout, c'est un gène qui peut être tout à fait intéressant. Donc après, pour comprendre quel rôle ce gène peut avoir, quel lien il peut avoir avec la dyslexie, il faut étudier sa fonction biologique, ce qui se fait typiquement chez l'animal. Et donc ces chercheurs de l'Université du Connecticut ont testé l'hypothèse que ce gène pourrait avoir un rôle dans la migration neuronale, puisque cette hypothèse avait été évoquée auparavant. Donc ce qu'ils ont testé chez le rat in utero, et donc chez lequel ils ont montré que si on interfère avec l'expression de ce gène pendant le stade de la migration neuronale chez le rat, eh bien on arrive à bloquer la migration des neurones. Donc ces neurones qui ont été transfectés par la forme mutée du gène, ils ont aussi une sonde fluorescente, donc qui permet de voir ces neurones ici. Et donc ça, c'est le cas contrôle où ces neurones ont été transfectés par la sonde fluorescente, mais qui n'a pas interféré avec l'expression du gène D5C1. Et donc on voit que quelques jours plus tard, ces neurones sont en cours de migration ou ils ont terminé de migrer, ils sont à leur place dans le cortex. Alors que si la sonde a en plus interféré avec l'expression du gène D5C1, eh bien ces neurones se retrouvent un petit peu coincés dans la zone ventriculaire et ils ne migrent pas. Donc bloquez l'expression du gène D5C1 au moment de la migration neuronale et vous bloquez la migration neuronale. Donc ça, c'est une découverte très importante parce que ça établit que effectivement ce gène D5C1 joue un rôle fonctionnel dans la migration neuronale. Il fait aussi peut-être plein d'autres choses dans d'autres endroits de l'organisme et à d'autres moments de la vie, mais il a au moins ce rôle-là. Et ça, c'est certainement pas tous les gènes qui font ça. Alors, une autre découverte très intéressante, c'est qu'une des conséquences de cette altération de la migration neuronale, ça peut être, dans certains cas, la formation d'ectopie à la surface du cortex du rat. Donc, Donc, si vous voulez, c'est un petit peu un effet secondaire induit, cette ectopie, qui n'est pas là dans tous les cas. Si après, on regarde beaucoup plus tard dans le développement, la conséquence ultime de cette interférence avec la migration neuronale, en gros, la conséquence ultime, c'est que la localisation des neurones n'est pas tout à fait ce qu'elle devrait être. Ça, si vous voulez, c'est le cas contrôle, avec beaucoup de neurones dans les deuxième et troisième couches du cortex. Et ça, c'est le cas où l'expression du gène DXACE1 a été on a interféré avec cette expression, et donc on a une prédominance de neurones dans la première couche du cortex et beaucoup moins dans les deuxième et troisième couches. Donc c'est la répartition des neurones dans les six couches du cortex qui se retrouve déséquilibrée, on va dire. Et donc occasionnellement il y a une ectopie qui se forme, mais c'est pas une conséquence inévitable. Donc ça conduit à finalement à voir les ectopies un petit peu comme un épiphénomène. Bon, qui avait été le premier à être vu dans les cerveaux des personnes dyslexiques, mais c'est probablement pas ça qui joue un rôle fonctionnel important. C'est plutôt l'organisation des neurones au sein des six couches du cortex. Donc là, vous voyez, c'est vraiment des découvertes fondamentales parce que ça permet de tout relier en quelque sorte. Hein, la susceptibilité génétique, les mutations observées dans un gène particulier, la fonction biologique de ce gène, une étape particulière du développement du cerveau et des anomalies cérébrales qui ont été observées chez des personnes dyslexiques. Alors, on a regardé aussi les autres gènes associés à la dyslexie et il s'avère que eux aussi, les trois autres, ce qui fait 4 sur 4, sont aussi nécessaires pour la migration neuronale. Alors ça, si vous voulez, c'était très très improbable. Hein, on a 25 000 gènes, il n'y en a certainement pas plus de quelques centaines qui sont impliqués dans la migration neuronale. On en tire 4 comme ça du chapeau, la probabilité que les 4 soient nécessaires pour la migration neuronale était quand même très faible. Mais c'est ce qui est arrivé, et donc c'est extrêmement suggestif sur, disons, les mécanismes génétiques et cérébraux conduisant à la dyslexie. L'autre chose qui est intéressante, c'est le type de mutation ou de variation génétique qui constitue un facteur de risque ici. Donc pour deux de ces quatre gènes, ROBO1 et DXACE1, ce qui a été trouvé, ce sont des mutations rares. Et elles sont tellement rares qu'elles n'ont été trouvées que dans une ou dans deux familles. D'accord ? Donc ça, ce sont des événements rarissimes quand les mutations, quand elles surviennent, évidemment, elles ont des conséquences importantes. Mais c'est pas ça qui va expliquer la prévalence de la dyslexie, parce que justement, elles sont trop rares. Donc ce sont des découvertes très intéressantes, parce que peut-être des variations un peu moins rares des mêmes gènes pourraient aussi être un facteur de risque, mais pour l'instant, on n'en a pas la preuve. Donc ces gènes, disons, on attend de voir s'ils pourraient jouer un rôle un peu plus important dans une explication générale de la dyslexie, mais pour l'instant, c'est pas le cas. En revanche, ces deux autres gènes, eux, ils ont été associés à la dyslexie d'une manière différente, sur des études de population entière, où on regarde les formes variantes des différents gènes, ce qu'on appelle les allèles, et on regarde si certains allèles sont représentés plus fréquemment chez les personnes dyslexiques que chez les personnes témoins. Et donc c'est le cas de certains allèles de ces deux gènes. Mais dans ce cas-là, ces allèles sont, on va appeler ça des allèles de susceptibilité, ils sont présents plus souvent qu'à leur tour chez les personnes dyslexiques, mais ils sont pas une condition nécessaire et suffisante de la dyslexie. Ils sont aussi présents chez des personnes non dyslexiques, et quand ils sont présents, ils n'engendrent pas nécessairement la dyslexie. Et il y a des tas de personnes dyslexiques qui n'ont pas cet allèle de susceptibilité particulier. Et donc là, on rentre dans une logique qu'on va appeler de maladie génétique complexe, où le résultat final, il est en fait le produit d'une multitude de facteurs, qui sont une multitude de facteurs d'une part génétiques, donc des allèles de susceptibilité comme ceci, qui augmentent légèrement le risque de devenir dyslexique, et qui interagissent également avec des facteurs environnementaux qui ajoutent eux aussi leur part, soit de risque, soit de compensation, et qui contribuent au résultat final. C'est un petit peu, si vous voulez, la même logique que dans les génétiques des cancers, par exemple, où il y a des allèles de susceptibilité qui augmentent la probabilité et qui interagissent avec des facteurs environnementaux et qui vont faire que la réponse à ces facteurs environnementaux va être plus ou moins favorable. Donc voilà, pour résumer, les gènes associés à la dyslexie ne sont pas des gènes de la dyslexie. Je dis ça parce que, en fait, ça, c'est une expression... qui est utilisé couramment entre généticiens. Mais il faut comprendre que c'est un jargon technique qui a un sens bien précis. Donc entre généticiens, on va dire, ah oui, on a trouvé un nouveau gène de la dyslexie. Il faut comprendre le sens que ça a. Ça veut dire, on a trouvé un gène dont un allèle est un facteur de risque pour la dyslexie. Et ça n'implique en aucune façon que la fonction de ce gène, c'est vraiment d'engendrer la dyslexie, ni d'apporter la lecture, ni quoi que ce soit. Donc, on ne devrait pas utiliser cette expression. C'est vraiment une expression trompeuse, gène de quelque chose. Mais bon, c'est comme ça. Et, disons, entre généticiens, ça va bien. Quand ça passe dans le public et que c'est mal interprété, c'est moins bien. Donc, ce ne sont pas des gènes de la dyslexie, ce ne sont pas non plus des gènes de la lecture, et ce ne sont pas non plus des gènes du langage, et ce ne sont même pas des gènes du cerveau. En fait, ce sont des gènes qui font plein de choses et qui, entre autres choses, participent à la construction du cerveau au stade fœtal et notamment à la construction de certaines zones cérébrales. Et il se trouve que certaines de ces zones cérébrales sont impliquées dans le langage oral, dans son acquisition, et vont être recrutées beaucoup plus tard d'une manière particulièrement intensive pour l'acquisition du langage écrit. Et donc, des variations dans ces gènes peuvent avoir une influence sur la construction de ces zones cérébrales et donc sur le développement des compétences cognitives qui vont être utiles pour l'acquisition du langage écrit. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir la relation de causalité. Donc, vous voyez qu'on a un petit peu bouclé la boucle et que maintenant, on a décrit un scénario qui est parti des symptômes comportementaux, qui a proposé l'existence d'un déficit cognitif, et en l'occurrence phonologique, qui pourrait expliquer ces symptômes comportementaux, dont on a trouvé des bases cérébrales à différents niveaux de description, tous ces niveaux étant cohérents. Et maintenant qu'on commence à trouver des facteurs génétiques, ces facteurs génétiques ont le bon goût de se relier et de se connecter très bien, en fait, avec les données cérébrales qui préexistaient depuis longtemps, ce qui permet de proposer un scénario relativement cohérent de l'étiologie de la dyslexie. Vous voyez quand même qu'il y a des flèches qui viennent des facteurs environnementaux à tous les étages, parce qu'on est persuadé que des facteurs environnementaux influencent tous ces mécanismes à tous les niveaux et jouent leur rôle dans la production du phénotype comportemental qu'on observe à la sortie. Donc s'il me reste bien 5 minutes, je vais pouvoir faire encore un dernier couplet sur la génétique et passer aux questions un tout petit peu plus concrètes qui vont se poser pour les enseignants. Donc juste cette diapo pour dire que c'est souvent ce qu'on entend, et ça reflète encore la mauvaise compréhension qu'ont les gens des mécanismes génétiques. D'abord, tout ce que j'ai dit sur la dyslexie, c'est vrai en moyenne. Quand on compare des groupes de personnes dyslexiques et des groupes de personnes témoins, et donc on ne peut pas affirmer que c'est vrai de tous les individus. Et en l'occurrence, il y a de bonnes raisons de croire que ce n'est pas vrai de tous les individus. Par exemple, il peut y avoir des cas de dyslexie qui ne répondent pas du tout aux facteurs génétiques et de développement cérébral que j'ai décrit, mais des enfants qui peuvent avoir des dysfonctionnements cérébraux dans ces mêmes zones cérébrales du langage qui vont être recrutées pour l'acquisition du langage écrit pour des raisons différentes. Par exemple, tout facteur qui provoque des perturbations cérébrales, soit prénatales, soit postnatales, soit au moment de la naissance, etc. Donc, et on en connaît des cas comme ça. Il y a des cas de dyslexie qui sont plus de type lésionnel, on va dire, que de type développemental génétique. Donc, il y a de la place pour une diversité de causes. Deuxièmement, comme je vous l'expliquais, la dyslexie, c'est un trait génétique complexe. Dans la plupart des cas, ça ne va pas être juste un allèle ou une mutation qui produit la dyslexie d'une manière systématique. Non, c'est le résultat d'une interaction entre une multitude de facteurs à la fois génétiques et à la fois environnementaux. Ces facteurs environnementaux pouvant être de différents ordres. Dans les facteurs environnementaux, dans les facteurs non génétiques, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres facteurs biologiques qui peuvent jouer un rôle important comme ceci. Et puis évidemment, l'environnement langagier, l'orthographe de la langue, je l'ai déjà mentionné. Sans doute les méthodes d'enseignement de la lecture ont aussi une part d'influence sur les symptômes comportementaux. Et évidemment, toutes les rééducations et les traitements qu'on peut apporter à l'enfant dyslexique vont changer ses symptômes sans que pour autant on ait besoin de changer ses gènes. Donc vous voyez que il n'y a pas d'incompatibilité majeure entre la présence de facteurs génétiques et la possibilité d'intervenir via les facteurs non génétiques qui ont aussi une influence sur les symptômes. Donc, génétique ne veut pas dire déterminé et immuable. En fait, ce qui se passe, c'est que le génome produit des prédispositions, à la fois cérébrales et cognitives, et l'environnement détermine l'expression de ces prédispositions et produit le phénotype final. Et donc, En fait, il n'y a pas de déresponsabilisation qui soit à l'œuvre. Les facteurs de génétique ne déresponsabilisent personne parce que, en fait, les facteurs familiaux, sociaux et pédagogiques ont aussi un rôle à jouer important, et je dirais en particulier l'école. Alors donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire à l'école? Et là, je ne vais pas trop empiéter sur ce que va raconter Michel Zerman, parce que je pense qu'il a plus que moi à dire sur le sujet, mais juste pour introduire un tout petit peu le sujet, et disons pour vous présenter les principales recommandations qui ont été faites par l'expertise collective de l'INSERM à ce sujet. Donc, que peuvent faire les professeurs des écoles? Sûrement pas dépister la dyslexie, et encore moins la diagnostiquer. C'est pas de leur ressort, c'est pas de leur compétence, donc il s'agit pas de leur demander ça. En revanche, ce qu'on peut leur demander, c'est de repérer les élèves, pas les élèves dyslexiques, parce qu'ils n'ont pas d'éléments pour savoir qui est dyslexique et qui ne l'est pas, mais les élèves en difficulté d'acquisition de la lecture. Et ça, tout enseignant est capable de le faire. Tout enseignant sait bien que à Noël du CP, j'en ai 4 ou 5 qui ne sont pas encore rentrés vraiment dans les mécanismes d'acquisition de la lecture. C'est tout ce qu'on peut leur demander, et c'est déjà pas mal. À partir de là, qu'est-ce qu'ils font? Les rééduquer? Non. Là encore, la rééducation d'enfants qui ont des troubles pathologiques n'est pas du ressort des enseignants ni de leurs compétences. En revanche, ce qu'on peut leur demander, c'est leur proposer une pédagogie différente. Hein? Donc c'est ça. Donc finalement, ce qu'on voudrait que les enseignants fassent, c'est simplement faire leur métier, c'est-à-dire enseigner, et enseigner à tous les enfants, y compris les enfants qui sont en difficulté, et ce, sans préjuger des causes de leurs difficultés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces enfants? Alors, quand est-ce qu'on peut le faire? En fait, dès le début du CP, s'il y a des signes prédictifs. Quels sont les signes prédictifs? Ce sont tous les troubles du langage oral. Donc, tous les enfants qui ont un très faible vocabulaire, quelle que soit la raison. Tous les enfants qui ont des faibles capacités phonologiques, hein, tout ça, tout ce qui est travaillé à la maternelle, les comptines, les rimes, etc., il y a un certain nombre d'enfants qui ont visiblement des difficultés avec ça encore en grande section maternelle. Ceux-là sont à fort risque de développer une dyslexie. Et donc pour tous ceux-là qui ont l'air porteurs de facteurs de risque du fait de leur faiblesse en langage oral, ça vaut la peine d'être assez vigilant dès le départ au CP sur l'acquisition de la lecture, parce que ils sont à fort risque. Pour tous les autres, dès le deuxième trimestre, on voit déjà lesquels ont pris du retard, lesquels n'ont pas acquis les bases du décodage. Et donc, pour lesquels il va essayer de falloir faire quelque chose. Et puis, évidemment, tout au long du primaire, hein, il n'y a pas qu'au CP que ça se passe, tout au long du primaire, il y a encore des acquisitions à faire, et il faut arriver à automatiser la lecture et à monter la compréhension, etc. Et donc, tant que ce n'est pas le cas, ça nécessite une attention particulière. Mais donc, pour revenir au CP, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce petit groupe d'enfants, donc je sais pas, 4 ou 5 par classe, qui n'ont pas réussi en un ou deux trimestres à acquérir vraiment les fondamentaux de la lecture? Pardon?
4 ou 5, ça veut pas dire qu'il, dans ces 4 ou 5, il y aura forcément un
dyslexique? Pas du tout, sans préjuger des causes. Personne ne sait s'ils sont dyslexiques pour l'instant. Donc ce qui est préconisé, et ça c'est préconisé, c'est pas juste une question d'opinion, c'est préconisé sur la base d'études scientifiques qui ont évalué systématiquement l'efficacité de différentes modalités de prise en charge pédagogique de ces enfants en difficulté. Il semble que ce dont ces enfants ont besoin, c'est évidemment d'un enseignement des relations graphèmes-phonèmes, mais ça tous les enfants en ont besoin, je pense que vous en avez assez parlé hier. Mais en fait, ce dont ces enfants en difficulté ont besoin, c'est pas moins de ça, c'est plus de ça. Hein? Et donc, ils ont besoin d'un enseignement encore plus intensif, encore plus explicite, encore plus systématique de toutes ces relations graphème-phonème et des mécanismes de synthèse et d'analyse et de leur automatisation et de leur utilisation pour la lecture et évidemment pour l'accès au sens. Et donc ça peut se faire par exemple une demi-heure par jour pour un petit groupe d'enfants à besoins similaires. Hein, et ça doit se poursuivre pendant quelques mois et ça doit être évalué. Évidemment, les résultats, les progrès éventuels à la suite de cette intervention pédagogique doivent être évalués. Et à partir de là, ce qu'on constate, c'est au bout de quelques mois, il y en a un certain nombre pour qui ça aura suffi. Ils avaient un petit blocage, ils avaient une petite faiblesse en langage oral, etc. On les a pris à part, on les a bien entraînés intensivement, et ça y est, ils sont sortis de l'ornière et ils peuvent rejoindre le groupe général. Et puis, il y en a certains que ça n'aura pas amélioré. Et alors là, à partir de là, l'enseignant ne peut plus être le seul acteur. Il doit en référer à un professionnel médical, pour obtenir un bilan de l'enfant et éventuellement une prise en charge adaptée qui ne peut plus être faite par l'enseignant lui-même. Et donc là, typiquement, l'interlocuteur compétent, ça va être le médecin scolaire ou le psychologue scolaire ou encore le médecin de famille. Bon, cette diapo pour vous montrer que en fait la prise en charge et ne serait-ce que le diagnostic d'un enfant dyslexique, c'est pas quelque chose qui appartient à un professionnel particulier, même pas à l'orthophoniste. L'orthophoniste n'a pas non plus tous les éléments pour faire un vrai diagnostic de dyslexie, et que en fait c'est l'affaire d'un réseau de professionnels qui en principe devrait être coordonné par un médecin qui connaît vraiment bien le problème et qui prescrit les bilans nécessaires au diagnostic de la dyslexie, qui les reçoit, qui les interprète et qui produit le diagnostic à partir de ça, et qui ensuite va prescrire la rééducation adaptée, souvent chez l'orthophoniste, mais dans certains cas, en fonction des autres symptômes, ça peut être aussi chez d'autres professionnels. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est la question des aménagements, qui est aussi tout à fait importante. Alors pourquoi est-ce qu'il faut parler d'aménagement ? Parce que au départ, l'enfant, il a un trouble qui est relativement spécifique, qui est spécifique à la lecture, mais la lecture, c'est aussi un moyen d'accéder à tous les autres apprentissages scolaires. Et donc, si on a un problème avec ce moyen, eh ben, on est en grand, grand danger de passer à côté de tous les autres apprentissages, alors que l'enfant dyslexique n'a pas forcément de difficultés particulières avec les capacités arithmétiques et mathématiques et avec la capacité d'apprendre dans toutes les autres disciplines. Donc, le risque, c'est effectivement que d'un trouble qui est relativement spécifique à un exercice particulier qui est la lecture, il s'enfonce dans un échec scolaire généralisé qui va empirer avec le temps, avec tout un tas de problèmes secondaires qui risquent de surajouter, perte de confiance et d'estime de soi, exclusion sociale, troubles psychologiques, voire quelquefois psychiatriques qui peuvent s'en suivre. Donc, il y a vraiment un cercle vicieux dans lequel il faut essayer d'éviter à l'enfant de rentrer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, bon, je vous livre vraiment très succinctement quelques suggestions, mais qui ne sont pas du tout exhaustives. Donc, tout ce qui coûte à l'enfant, il faut réduire tout ce qui coûte à l'enfant, c'est-à-dire la lecture et l'écriture. Donc, on peut donner les énoncés par écrit, mais si on les donne en plus par oral, eh ben, c'est encore mieux pour l'enfant dyslexique. Si on lui donne plus de temps pour lire, c'est mieux aussi. Si on diminue la charge d'écriture ou si on donne plus de temps pour écrire, c'est mieux aussi. Bon, évidemment, il y a des possibilités avec les ordinateurs, les correcteurs orthographiques, les traitements de texte, etc. Et aussi, quelque chose qui est important pour la confiance en soi de l'enfant, c'est ne pas pénaliser l'orthographe en dehors des dictées. Hein, il y a un type de contrôle qui a pour but d'évaluer l'orthographe, c'est la dictée. Et là, les enfants dyslexiques, ils ont des mauvaises notes, parce que je ne l'ai pas dit, mais ça s'accompagne la plupart du temps d'une grosse dysorthographie. Mais tous les autres contrôles n'ont pas pour but d'évaluer l'orthographe, ils ont pour but d'évaluer d'autres compétences et d'autres connaissances. Donc pour qu'ils évaluent correctement ces compétences et ces connaissances, il ne faut pas pénaliser l'orthographe. Voilà, donc j'ai terminé. Donc pour conclure, donc la dyslexie développementale, c'est quelque chose d'assez complexe, qui a une base cognitive, une base cérébrale, une origine qui est en partie génétique. Et néanmoins, tout ceci n'a rien de contradictoire avec le fait que la réponse adaptée, c'est dans la plupart des cas, et en tout cas dans un premier temps, une réponse pédagogique. Et puis, éventuellement, dans un second temps, en fonction de la sévérité, de la complexité du trouble et de la réponse de l'enfant à cette intervention pédagogique, éventuellement une réponse plus médicale telle que la rééducation orthophonique. Et pour terminer, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent concerne exclusivement la dyslexie et certainement pas l'illettrisme dans sa généralité et encore moins l'échec scolaire. Voilà, je vous remercie.